C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Une fois de plus, nous voilà au cœur du Limousin, à Vassivière, au bord d'un lac magnifique. C'est ici que chaque année se tient le festival de contes de Vassivière, un lieu unique pour rencontrer conteurs et conteuses venus de tous horizons. Aujourd'hui, ce ne sont pas une, mais deux femmes que je vous propose de rencontrer, Clara Guénoun et Nathalie Meurzec. Clara, enseignante pendant 25 ans, est aussi comédienne et formatrice, mais avant tout, Clara est conteuse. En 2018, elle fonde la compagnie des gens qui comptent pour raconter à tous les publics, dans tous les lieux, son envie, donner la parole aux adolescents, aux adultes, aux familles. Travail où le conte devient un fil rouge, un moyen de retisser les liens entre parents et enfants. Nathalie Meurzec, elle, ne se destinait pas au conte. Pourquoi raconter des histoires avec des mots quand on est d'abord attiré par le dessin? Bon. Mais ensemble, elles ont créé un spectacle qui s'appelle Orca. Orca, c'est l'histoire inspirée du propre récit de vie de Nathalie. C'est l'histoire d'une enfant née sous X puis adoptée. Alors, avec Anne Galgo-Duchaud, prenons la route des petits lacs et des sapins. Nombreux à Vassivière pour aller prendre le petit-déj avec Clara Guénoun et Nathalie Meurzec.
Mais ma question, c'est là, c'est moi qui suis enregistrée. C'est que si on parle d'Orca, comme Nat a écrit le texte et tout, est-ce qu'elle peut prendre la parole ou est-ce que c'est plutôt après? C'est pas ton histoire avec ton écriture, mais après sur le reste, oui, je peux poser, mais à un moment donné, en tout cas.
C'est mieux de commencer par toi, comme
on va commencer.
Tout à fait. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Clara Guénoun.
C'est ça.
Donc on est dans un endroit quand même particulier là.
Ouais. On est au festival de Vassivière.
Au festival de Vassivière. Je viens de faire la route jusqu'à chez vous en longeant le lac. Là, c'est splendide.
Ouais, c'est très beau comme coin.
On comprend que les conteurs, conteuses aient envie de se rejoindre là.
Ouais. Bah ouais, en plus c'est un festival hyper chaleureux. Et comme tout est regroupé, c'est vraiment un lieu où on arrive à se rencontrer, quoi.
C'est ça. Voilà. Ça fait partie quand même du plaisir,
ah bah ouais.
J'ai cru comprendre.
Complètement.
Ouais. Mmh. Ouais. Bon, tu es conteuse, toi.
Voilà.
Quel drôle de métier.
Ouais. Bon, en fait, je suis conteuse... Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, pendant des années, je raconte des histoires... Parce que...
Tu disais pas je suis conteuse?
Non, je disais pas je suis conteuse parce que je n'avais pas encore démissionné de l'éducation nationale. J'ai rencontré le conte parce que j'ai eu deux mamans d'élèves conteuses.
Ah.
J'ai eu dans ma classe les enfants de Praline Guépara, Yara, la fille de Praline Guépara et le fils de Florence Desnouveaux, la même
D'accord.
année. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je suis instite en pédagogie institutionnelle.
Donc, du canal...
Exactement, je bossais dans le 19e.
D'accord.
Et donc, à ce moment-là, on travaille en décloisonné, pédagogie Freinet, tout ça. Donc, tous les samedis, les classes ouvertes aux parents. Et là, régulièrement, Praline, Florence racontent. Et moi, à ce moment-là, j'inventais beaucoup d'histoires avec les enfants. J'adorais ça. Je lisais évidemment beaucoup d'albums. C'est un métier, quoi.
Ouais.
Et donc, elles m'ont dit, bah oui. Et je dis, mais on fait comment, en fait, si on veut apprendre? Et donc, là,
il y a des diplômes
Praline,
elle
m'a dit, tu vas à la maison du conte, tu te formes.
Mmh.
Ça a commencé comme ça. Et donc, ouais. Je me suis formée là et à d'autres endroits pendant une petite dizaine d'années. Je me suis mis à des moments à mi-temps, dispo. Et puis un jour, j'ai intégré le Labo des Compteurs, qui est un lieu de recherche un peu, on expérimente plein de trucs. Et puis, et l'année de mes 50 ans, j'ai démissionné. Je me suis dit, ça y est, je crois que je suis prête.
Le cadeau, ouais. Le cadeau de 50.
Et à 50 ans, j'ai monté ma compagnie et j'ai dit, je suis conteuse. Voilà.
C'est
un
drôle,
peu, un peu le chemin. Et donc voilà, j'ai démissionné. Maintenant, je retourne dans les collèges avec mes spectacles, avec mes ateliers pour les ados. Et je continue à être en lien avec eux, mais voilà, avec des gens avec qui je choisis de travailler, quoi. Donc c'est super.
C'est qui t'a appelé là-dedans, dans le fait de raconter?
Je crois que c'est... en fait, moi, j'étais déjà à cette époque comédienne de théâtre forum. Je fais du théâtre de l'opprimé depuis maintenant 25 ans. Donc en fait, j'ai toujours été... En fait, les histoires des gens, les gens, je crois que c'est ce qui me porte dans la vie. Et donc, j'ai beaucoup écouté d'histoires de gens, puisqu'au théâtre forum, tu pars des histoires, tu t'entraînes à voir comment on pourrait les transformer, tout ça.
Ouais. Tu peux redire pour des gens qui ne savent pas, donc on théâtre forum, c'est...
C'est un des outils du théâtre de l'opprimé qui a été créé par Augusto Boal au Brésil dans les années 60, voilà. Ouais. Et l'idée de... C'est vraiment un théâtre d'entraînement, en fait. C'est un outil d'entraînement à résister à nos oppressions.
C'est ça.
Voilà, donc on travaille sur des histoires vraies des personnes. Les gens ne jouent pas leur propre rôle. Ils jouent le rôle de leur oppresseur, parce qu'on n'est pas dans un travail thérapeutique, on est vraiment quelque chose plutôt de politique.
Ouais.
Et on joue devant une salle, devant une assemblée, qu'on appelle des spectateurs et spectatrices. Et les gens vont monter sur scène en prenant la place du personnage avec qui, sans solidarité, pour voir ce qu'ils feraient eux dans leur vie. Mais très vite, je me suis rendu compte que mon truc, c'était le récit de vie. Mais que j'allais essayer de mélanger ces deux formes, ces deux types de langage. Et c'est vraiment ce que fait la Compagnie des gens qui comptent, c'est-à-dire depuis 2013. Voilà, Nat faisant partie de la Compagnie des gens qui comptent.
Bonjour Nat, qui est de l'autre côté de la table,
voilà.
Qui pour le moment ne parle pas, mais ça ne va pas durer.
Voilà. Et donc, voilà, donc maintenant c'est 2007, une petite dizaine d'années. Et toutes les créations qu'il y a eu, à chaque fois il y a la question du récit de vie et du mélange avec les contes traditionnels, la voix chantée, le voilà.
Un jour, ma mère me dit, lorsque tu seras dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens, cache-toi dans ta couverture. Ne tourne pas en dérision ce qu'ils font. Ils ont soif de l'infini comme toi, comme moi, comme le reste des humains. Vous qui me regardez, éloignez-vous de moi, car mon haleine exhale un souffle empoisonné.
Nul n'a encore vu les rides vertes sur mon front, ni les os ensaillis de ma figure maigre, pareil aux arêtes de quelques grands poissons. Pourtant, je sens que je ne suis pas le seul qui souffre. Pourtant, je sens que je respire.
Mamadou est né en France. Ils sont tous nés en France. Mais leurs parents sont nés ailleurs. Sénégal, Mali, Tunisie, Algérie, Portugal. Le père de Mamadou est reparti au bled, comme ils disent. Quand est-ce qu'il va revenir? Mamadou n'en sait rien. Et il veut pas en parler. Alors c'est cool. Il le provoque tout le temps là-dessus. « Hey, ton daron, il vient jamais te voir là, il est mort ou quoi ?» Dans ce cas-là, le corps de Mamadou se raidit. « Qu'est-ce qui t'arrive ?
Parle pas de mon père, je m'en bats les steaks ou les bâtards, ferme ta gueule, sinon je te défonce. Nordine, c'est le plus motivé. En 2 minutes, il a déménagé la classe, installé les chaises en cercle. Madame, vous racontez encore la mythologie? Vous savez, quand Chronos, il coupe les couilles de son père, c'est chaud. Elle est parmi eux. Les corps se posent. Les visages se détendent. Les insultes font une pause. Elle aime bien ce moment-là. Solito, c'est un homme qui vit seul, dans une petite maison à la sortie du village. Il pêche seul. Il mange seul. Il dort seul. Solito n'a jamais connu l'amour. Eh, dame, moi je dis franchement, la vie c'est bien pour certains, les autres ils ont pas de chance. C'était Marco, lui qui prenait jamais la parole. C'est vrai, Marco. Un soir, rentrant chez lui, Solito entend une voix, un cri plaintif comme il n'a jamais entendu. Il s'approche. Sous le pont, il voit une ombre, une créature noire aux yeux verts brillants. On dirait un requin. Solito se met à crier, il a peur, mais la voix lui dit « N'aie pas peur, je suis pas un requin comme les autres. Je dois rester près de l'eau, mais je suis condamné à vivre sur la terre. »
Requin chagrin, autre spectacle de Clara Guénon. Un conte qui effleure aussi le domaine de la danse. Ce spectacle interroge la place que notre société accorde aux adolescents d'aujourd'hui. Clara Guénon a recueilli leurs mots, leurs émotions, leurs histoires pour les transformer en récits vivants. C'est pas pour dire. Aujourd'hui, en compagnie de la conteuse Anne Guelgaud-Duchaud, grand entretien et petit déjeuner avec Clara Guénon et Nathalie Meurzec.
Ce que tu évoques, il y a aussi une piste de réflexion autour de plein de gens qui ne connaissent pas particulièrement de conte. Si tu parles conte, la plupart du temps, les gens, ils voient un truc de bisounours, tout est bien, tout est mignon. En plus, si tu dis conte merveilleux, alors ça doit être merveilleux, quoi. Et en fait, c'est... On n'est pas là-dedans.
Non.
Si on parle de contes merveilleux, c'est quand même hyper en lien avec la vie.
Ouais. En fait, moi, je crois que j'ai eu aussi un grand choc dans ma vie de conteuse. C'est le jour où j'ai entendu Peau d'âme.
Ouais.
Je crois que ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que
Texte de Gigi.
Le texte de Gigi Bigot, ouais. C'est vraiment le jour où j'ai compris qu'en fait, nous, conteuses, on pouvait en fait tout dire. C'était de trouver la manière dont on allait, c'était notre force à nous, c'est comment on allait le dire, comment on allait pouvoir être décalé, puisqu'on n'est pas des journalistes, on n'est pas des... Voilà. Et quand j'ai entendu ce texte, mais ça a été une révélation pour moi, et je me suis dit, ok en fait, ça, c'est possible d'aller là-dedans, dans ce registre-là. Voilà, on peut parler d'un camp de concentration de cette manière-là. Voilà. Voilà, c'est pour ça aussi, je pense que dans les premières créations, je me suis fait accompagner par elle, parce qu'il y avait des moments d'écriture. Moi, l'écriture, c'est pas mon truc a priori, quoi. C'est pas un truc facile pour moi, l'écriture. Et il y avait des moments où j'avais besoin d'aide pour pouvoir aller là-dedans, quoi. Voilà, et donc c'est un peu vraiment ça ma recherche en ce moment. C'est le récit de vie mêlé à de la légende, du conte traditionnel, et de voir comment ça peut être de plus en plus mêlé. Voilà, parce que je trouve aussi que c'est des manières différentes de rentrer pour les gens dans le spectacle.
Oui, tu saurais préciser ça?
Oui, par exemple, avec mon avant-dernière création, Requin Chagrin, qui est donc le récit, aux trois quarts autobiographique, puisque c'est une histoire que j'ai vécue avec un adolescent à l'époque où j'étais prof. J'ai appris sa mort des années après. Et quand j'ai appris la mort de Mamadou, j'ai décidé de faire un spectacle sur ce que j'avais traversé avec lui et cette classe à l'époque. Et à un moment donné, je pars avec cette classe, donc c'était 7 garçons, je pars avec cette classe à Marseille pour pour les, je sais pas, pour leur permettre de s'évader quelques jours, de voir la mer, de vivre un truc ensemble autre.
C'était des gamins c'était parisiens.
Des élèves, ouais, c'était des élèves qui étaient en métallerie chaudronnerie.
Ouais.
Voilà. Et quand on arrive à Marseille, en fait, on va à la plage et Mamadou, donc, qui est un gars hyper grand, costaud, tout ça, en fait, il se rapproche de moi, il a sa casquette sur la tête et il me dit, madame, c'est vrai que dans la mer, il y a des requins. Et le spectacle, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de permettre de raconter cette chose de l'adolescent, du tout puissant et du tout petit.
Mmh.
Et il se trouve qu'avec cette classe, les seuls moments où j'avais leur écoute, c'est quand je leur racontais des histoires. Et il y a un conte traditionnel qui s'appelle « Le chasseur et sa famille », où c'est des enfants qui vont partir à la recherche d'un père qui a disparu. Et à un moment donné, ils vont reconstituer le corps du père. Et donc, dans le spectacle de Requin Chagrin...
Ils vont reconstituer le corps
avec,
du père.
Avec les morceaux de squelette.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui.
Et le corps reprend vie, la chair apparaît, bon. Tout ça. Et donc, je joue ce spectacle dernièrement pour la protection judiciaire de la jeunesse à Marseille.
C'est un récit africain ?
Oui, du Zimbabwe, celui-là. Et donc, je joue ce spectacle devant des jeunes ados de foyer il n'y a pas longtemps. Et je leur demande les moments qu'il les a portés, tout ça. Et en fait, il y a un jeune qui me dit, mais moi, le moment le plus fort, c'est dans le conte. C'est ce môme. En fait, il n'a pas lâché. Il a essayé de retrouver son père. Il a refait son corps. Tu vois ? Voilà. Et je me dis, eh ben, en fait, pour moi, c'est hyper important. Qu'il y ait... Parce que finalement, eux, les jeunes de Marseille, la réalité de Mamadou, elle est très proche d'eux. Ils la connaissent.
Bien sûr.
Mais ça, ce conte-là, qui permet de dire un truc que... Je sais pas, qu'on rêverait tous, en fait, de refaire vivre nos morts, tu vois. Ce môme, c'est ça, en fait, qui lui a parlé. Et je me suis dit, ben, heureusement que dans ce spectacle, j'ai réussi à mélanger tout ça.
Elle est épuisée.
Je les aime bien. Je sens que je viens de passer un cap avec eux. Je me sens moins seule face au groupe. C'est comme si maintenant, je les voyais chacun, avec leur force, leur fragilité, leur histoire de vie. Oh, c'est pas gagné.
Se insisti e più alla finestra, quattro piani sono duri da fare.
Sauf que le lendemain, elle ne peut pas commencer son cours. Ils sont sur le pas de la porte. Moussa est en grande discussion avec Mamadou et tous les autres sont autour et écoutent. Un 9 mm ? Ça veut dire que Mamadou a une arme chez lui. Vous rentrez en classe immédiatement. J'ai tout entendu là. C'est quoi cette histoire de gun ? Vous vous croyez où ? Vous croyez que vous êtes dans un jeu vidéo ? Que quand vous aurez perdu toutes vos vies, vous allez la récupérer, c'est ça ? Je vais pas pouvoir faire comme si de rien n'était. Je vais devoir faire quelque chose. Pour que ça n'aille pas plus loin, je suis claire ? Madame, vous connaissez rien à la cité. En plus, vous êtes une femme. C'est pour ça que vous avez peur. Mais il n'y a rien, d'accord ? Il n'y a rien. Il y en a eu combien ces dernières années ? Ismaël, 15 ans, poignardé à Paris. Sofiane, 17 ans, poignardé à Sarcelles. Luigi, 17 ans, tué par balle cette nuit-là. Elle fait un cauchemar. Il déboîte sa mâchoire, se jette sur les poissons, les déchiquette avant de les engloutir. Elle se réveille en sueur. Pourtant, elle le sait bien. Les requins sont pas si dangereux. C'est le plus gros poisson du monde, mais la plupart sont inoffensifs.
Ça fait 15 ans qu'ils sont sur Terre. On n'a pas le droit de les abandonner. On ne peut pas les laisser s'entretuer. Alors, qu'est-ce qu'on a à leur proposer ? C'est la question, lancée par Clara Guénoun dans le spectacle « Requin chagrin ». Je cite encore. L'adolescence m'a toujours fasciné, ce mélange du tout petit et du tout puissant. Cette prise de risque, cette violence parfois sur leur territoire, et en même temps, cette peur qui les traverse dès qu'ils s'éloignent de chez eux. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire.
Tu dirais que conteux, c'est un exercice politique ?
Ah ben moi, pour moi, en ce moment, complètement. En fait, j'ai jamais réussi à être syndiquée, même quand j'étais prof. J'ai jamais réussi à rentrer dans un parti. Il y a quelque chose, voilà, où je trouve pas ma place là-dedans. Et vraiment, en ce moment, quand je raconte, je me dis que c'est vraiment une manière pour moi, dans le moment où je raconte, de résister au monde dans lequel je suis. Je trouve qu'il y a en fait, il y a deux choses. Le monde, pour moi, dans le monde dans lequel on est, il est terrible en ce moment. Il est de plus en plus violent. Il est vraiment, voilà, c'est. Et je me dis que moi, en ce moment, en tout cas, je ne peux pas être dans la lutte militante engagée de tous les jours. Donc, en fait, j'ai le théâtre de l'opprimé, qui est une manière de résister. Et le conte, en fait, parce que je me dis que, en tout cas, pour l'instant, il n'y a personne jamais qui va m'empêcher de raconter des histoires, d'embarquer les enfants, les adultes dans du rêve. Et en fait, pour moi, rêver, c'est aussi s'autoriser à résister. C'est-à-dire, c'est de se dire, OK, il y a tout ce qui se passe, mais en fait, à cet endroit-là, on est ensemble et on peut se donner de la force en écoutant cette histoire ensemble. Et pourtant, cette histoire, elle nous parle aussi de choses hyper dures, peut-être, mais pas que. Parce que moi, dans tous les spectacles, l'idée, c'est pas que les gens ils sortent plus défoncés que quand ils rentrent. Voilà, je me dis que la vie, tu vois,
c'est
vraiment.
Rare que, parce que, en fait, si on prend les contes traditionnels, ça peut être très, très dur, ça peut être très violent, ça peut être très mystérieux et très incompréhensible. C'est rare que ça se termine mal.
Ouais. Oui, mais avec le récit de vie, tu peux avoir cette tendance.
Bien sûr, bien sûr.
Moi, par exemple, Mamadou, il meurt en vrai. Et je le fais mourir dans le spectacle.
Oui,
mais par contre, les dernières minutes du spectacle, c'est des voix off d'adolescents qui parlent de c'est quoi la vie. Voilà,
ça.
Tu vois ce que je veux dire.
C'est ça.
Et donc, voilà. Donc pour moi, oui, c'est résister parce qu'on peut dire des choses du monde dans lequel on est, mais avec notre langage à nous. Et que c'est aussi un moment où on fait corps, où on fait famille, où on fait assemblée, je ne sais pas comment dire, mais où on est ensemble et on se dit, OK, ça c'est possible en fait, de s'autoriser à lâcher prise, à voilà.
Oui, donc
ouais, pour moi, oui, c'est complètement en ce moment.
Dans ce que tu dis, quelque chose de l'autorisation.
Ouais.
Et puis cette composante importante d'être ensemble quand même.
Ouais, complètement. C'est-à-dire et tu vois, moi, j'ai fait beaucoup pendant des années des séjours parents-enfants. Ça sera d'ailleurs le thème de ma prochaine créa sur comment le conte peut recréer du lien parents-enfants. Je travaillais avec des éducs, des parents, des enfants, et on partait une semaine, et le conte était le fil rouge toute la semaine. Donc je faisais des ateliers, tout ça. Et en fait, même dans les ateliers où il y avait des moments émotionnels très durs, parce que je travaillais sur le récit de vie des mères et tout, en fait, je cherchais toujours à des moments à aller à l'endroit où elle pouvait exploser de rire, où elle pouvait pleurer de joie, où tout d'un coup elle retrouvait une chanson, une berceuse qui leur faisait du bien. Voilà, je cherche toujours à mêler ces deux choses, tu vois. Ou tout d'un coup à se dire, OK, si je dois inventer un moment dans cette histoire dure, à quel moment il peut y avoir du rêve, il peut y avoir, voilà. Et c'est ça qui fait du bien aussi, parce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter des événements de nos vies. Mais après, c'est comment, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait. Et moi, voilà, c'est vrai que je fais beaucoup d'ateliers, j'accompagne aussi pas mal de conteuses sur des premières créations aussi, pour travailler aussi cette chose-là, en se disant... voilà, il faut que les gens aient aussi des bouffées d'air, il faut qu'ils aient des fenêtres. Sinon, c'est trop hard, quoi.
Ouais, la part dont tu parles, la part du rêve, elle est aussi... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de militant là-dedans, dans le sens où on vit quand même dans une société ou dans une époque tellement concrète, matérialiste, où on te dit, bah, la vie, c'est ça, puis ça se passe entre ces deux murs-là. Et puis, il va falloir que tu sois comme ci et comme ça, puis rentable quand même. Hein. Et puis, le bonheur, c'est un truc qui s'achète. D'ailleurs, on le vend. Et c'est vrai que cette part du rêve, au-delà de te donner du courage, il y a aussi l'autorisation d'aller ailleurs.
Complètement.
Elle est ailleurs.
Ouais. Et du coup, dans la dernière création, c'est vers ça aussi que c'est aussi vers ça qu'on va avec Orca.
C'est pas pour dire, avec Clara Guénoun et Nathalie Murzek.
Alors Orca,
qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ce truc, c'est à l'origine un texte qui a été un peu demandé par Clara, qui est... Oui, ça c'est le point de départ. Le point de départ finalement c'est Clara, puisque Clara voulait faire un spectacle sur les mers qui va avoir lieu finalement, et qu'elle voulait que dans ce spectacle il y ait un contrepoint du point de vue d'un enfant. Alors elle m'a dit, écris vas-y, donc un récit cadre, vas-y, fais quelque chose. Donc j'ai écrit un petit récit de moi-même, qui était plutôt en tant qu'enfant donc.
Qui s'appelle
Au début n'avait pas de titre. Orca, le titre, est venu assez rapidement par contre, parce que c'était un mélange d'un truc d'italien ancien qui voulait dire ogresse, et d'orchessa, qui est le nom d'aujourd'hui en italien, pour ogresse. Donc c'était un mélange. Et puis, il y avait l'image de l'orque, évidemment, le prédateur marin, qui était tout à fait moi dans mon adolescence. Et donc, ce truc-là est venu assez vite, finalement.
On t'a écrit.
Et donc j'ai écrit, et finalement, il a été question que peut-être ce soit un peu plus qu'un récit cadre. Alors on est assez vite parti chez Gigi et Pépito leur faire une lecture, en fait.
C'est-à-dire que quand j'ai lu ce que Nat avait écrit, c'était pas, je me suis dit, c'est un spectacle, en fait. C'est magnifique, c'est un spectacle en soi, il faut qu'on joue ça ensemble, c'est génial. Et d'ailleurs, Nat, à ce moment-là, m'a dit, finalement, en plus, moi, les mères, je crois que je m'en fous un peu.
Oui.
Et donc, ça tombait très bien. Je me suis dit,
tout bien réfléchi.
Mères, pour la prochaine création. Et on va monter ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, en effet, j'ai dit, putain, on dit, mais ça va être super. Ben c'est un spectacle. Et vous allez continuer à l'écrire, à le travailler.
Ce travail d'écriture, l'écriture, c'est une chose dont tu es coutumière?
C'est une chose dont j'ai été coutumière, mais mon premier média c'était quand même le dessin, donc un monde de silence et sans mots, quand même. Et finalement, oui, j'avais, je pense que je me suis dit assez vite dans la vie que les mots pouvaient être assez traîtres, enfin qu'on ne pouvait pas s'y fier. Ce qui est hyper rigolo, c'est que maintenant j'ai rencontré Clara, et d'ailleurs pendant très longtemps, tous les gens qui racontaient des histoires, je trouvais ça d'un ennui mortel, et je me disais, mais je m'en fous totalement en fait, aucune histoire ne m'intéresse.
Et quand même, tu viens être une conteuse.
Et je rencontre Clara, non mais la blague.
C'est toi.
Et maintenant, je me retrouve à raconter une histoire, et en plus la mienne. C'est le summum de ce que j'aurais pu trouver absurde jadis. Mais comme je suis une grande fille, j'ai évolué dans mon rapport à la parole orale. Et du coup, je comprends bien maintenant qu'elle peut avoir quelques pouvoirs et quelques bienfaits. Et donc, quand Clara a dit « Bon, bah, non seulement tu l'as écrit, mais maintenant, ce serait bien d'être sur le plateau », j'ai dit « Oui ». Après, non pas que j'avais jamais été sur le plateau, c'était pas ça l'histoire, mais être sur le plateau avec sa propre histoire,
oui, c'est
une autre histoire, ça veut dire que tu acceptes quand même, parce qu'assez vite on s'est dit, ben, on va pas faire sac à deux, donc il nous faut une équipe, et donc on a rencontré Anne-Marcel, chez Gigi Pépito d'ailleurs, à la même période.
Ouais.
Et on a très vite eu envie de travailler avec un musicien,
ouais,
parce qu'on s'est dit que... on avait envie qu'il y ait le langage de la musique, et on savait qu'on voudrait chanter en italien dedans, tout ça. Et donc on travaille avec Mathieu Baudin, qui est un accordéoniste électronique, voilà, qui est extraordinaire.
Orca est dans son bain. Elle a 5 ans. Elle est dans l'eau avec Petit Ours Bleu. C'est sa pluche, celle qu'on lui a donnée à la pouponnière de Saint-Vincent. Ce jour-là, Petit Ours Bleu a réussi à échapper à la machine à laver.
Orca, née sous X le 13 novembre 1971 à 4h25 du matin. Au 11e jour de sa naissance, le procès verbal d'abandon est dressé. On lit matricule PE75A511. Enfant naturel, catholique, sans filiation, à ondoyer.
Elle le frotte de toutes ses forces. Elle met du savon. Il fait des bulles. Ça fait même de la vapeur. Ça fume.
6 kg, 65 cm. Périmètre crânien, 43,5 cm. BCG, DTC, polio, fait. Auscultation cardiaque, normal.
À la pouponnière, il y avait une dame, Paola. Et ben, quand elle lui donnait son bain, elle lui disait toujours « Toi, tu es un vrai petit poisson. »
Signe particulier, une tache blanche au-dessus de l'œil gauche. État de santé, excellent.
Un enfant normal à ce point-là, ça se fait adopter rapide.
Au 768e jour, une adoption plénière est prononcée par le tribunal.
À 8 ans. Elle est assise sur un banc en plastique au parc aquatique d'Antibes. Orca écoute les orques. Claquement de mâchoire, claquement de nageoire, claquement des peaux à la surface des eaux.
Une tache blanche, comme celle des orques.
Ils voient rien les autres ou quoi?
Mais leur tache au-dessus de l'œil, c'est la même que la sienne. Une tache blanche comme les orques.
Orca, elle ne voit plus que ça maintenant.
3 ans de solitude passent. Orca a 11 ans et elle passe ses soirées à lire en cachette à la lampe de poche. Il y a une histoire qu'elle aime par-dessus toute. C'est l'histoire d'une petite fille. La porte est entrouverte. Elle rentre. Et là, elle voit une ogresse assise sur un tabouret de dos. Elle est énorme. Elle a les seins tellement lourds qu'elle les a fait passer de chaque côté de ses épaules pour pouvoir travailler plus tranquillement. À sa droite, 2 ogrignons, immondes. À sa gauche, la grand-mère ogresse. Herbe verte à faim. Alors qu'elle voit les seins de l'ogresse, elle se jette sur ses seins.
4218. Ce matin-là, Orca, elle compte, elle recompte. 4218 jours déjà qu'elle a été abandonnée par sa mère.
Nous écoutions un extrait de Orca, un spectacle né de la complicité de Clara Guénoun et de Nathalie Meurzec. C'est pas pour dire, au festival de contes de Vassivière.
Il y aurait donc un rapport entre l'oralité et l'écriture qui est autre chose que du théâtre.
Oui.
Voilà. Et ensuite, tu parles de mise en scène. Alors là, c'est quoi? À quel endroit on se trouve? C'est quoi cet endroit où on écrit pour dire? Déjà, qu'est-ce que ça change, ça? D'écrire une chose qui est faite pour être...
Dites. La première écriture n'était pas spécialement une écriture faite pour être dite, puisque moi je ne sais pas forcément écrire pour dire. La première écriture était plutôt poétique, pas du tout chronologique. Elle était plus poétique, on va dire. Et à partir du moment où on a commencé à travailler avec Anne Marcel, le texte s'est transformé pour pouvoir être dit, pour pouvoir être entendu par un public. Cette transformation-là, elle est, quand tu es auteur, elle n'est pas du tout évidente. Parce que du coup, mais Anne Marcel a fait ça quand même avec beaucoup de subtilité, parce que, en plus, c'était mon histoire. Donc ça faisait double difficulté quand même pour tout le monde. Ce qui fait que finalement, touche par touche et petit à petit, il y a eu des augmentations de chapitres, il y a eu quelque chose qui s'est finalement, peut-être qu'on pourrait penser aujourd'hui plus carré, mais certainement plus compréhensible dans sa globalité, pour en faire un récit que tu peux entendre sur un plateau, comprendre, parce que d'abord il y a une histoire que tu as envie que les gens entendent.
Et moi, assez vite, j'ai dit à Nat, quand je sentais au début que c'était un peu difficile, les coupes et tout, je lui ai dit, mais ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, tu te réappropries ce texte, que tu en fasses un écrit qui soit le tien et que tu le publies. Ouais, voilà. Et donc, elle a repris à la fin de tout ça, et elle en a fait un petit livre qui s'appelle La Recrachée. Mmh. Et du coup, qui est vraiment son écriture à elle, avec le début, toute l'évolution, mais qui reste son texte, et là, personne jamais n'y touchera, quoi. Plus tous tes dessins, puisqu'en fait, dans le spectacle, il y a les dessins de Nat, puisque sur ce thème, il y a eu des dessins qui ont été faits pour une expo. Et donc, il y a aussi ces dessins auxquels jamais personne ne touchera. Et ça, je trouve que c'est très beau. C'est-à-dire ce mélange des choses, quoi, et des genres.
C'est aussi, de même que dans le conte traditionnel, il y a quelque chose de symbolique. En fait, dans le dessin, il y a aussi quelque chose de très symbolique. Et du coup, moi, je suis plutôt contente qu'il y ait aussi... et avec la musique et avec le dessin, finalement, dans un spectacle des arts de la parole, des moments qui sont des moments de non-parole, de silence, de couleur, de mouvement, de son. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Les lignes grincent dans sa tête, les couleurs trompettes, les couleurs rondes énormes comme un moteur de sous-marin au fond de la mer, bleu électrique, rouge, sang, jaune, électrique, noir d'encre. Des ogresses monstres, aux angles droits aiguisés comme des couteaux, des chasseuses sans pitié, des squelettes, des toiles d'araignées, des pieuvres, des momies et des anges. Et puis parfois un être gris et solitaire dans la blanche immensité.
Orca ! Comme un crachat !
Je m'appelle Orca, j'ai 13 ans. Je veux tout faire péter. Bon. Au collège, on se dit qu'il y a peut-être un problème. Orca, quand est-ce que tu vas arrêter de dire à tout le monde que comme métier, tu vas être chasseuse d'ogresses ? C'est pas possible, puisque les ogresses n'existent pas.
Ça commence mal, ce rendez-vous.
Orca rentre ses dorsales, ferme ses ouïes, serre sa mâchoire.
Elle flotte quelque part dans le Grand Nord.
Je voudrais que t'arrêtes de tout casser, de tout mordre. J'aurais que t'essayes de parler un peu le langage des humains. Est-ce que tu connais la légende de Sémiramis ?
Ce jour-là, une petite brèche s'ouvre dans les peaux d'Orca. Et plus sa peau se détend, plus Orca parle.
Qu'est-ce qui nous fait nous sentir appartenir aux humains ?
Tous les mots qu'elle a lus, entendus, maintenant, elle s'essaye à les passer par sa gorge. Ça va même jusqu'à des vagues, des flux, des reflux. Des marées entières de mots qui se déversent. Au matin du 15530e jour, elle entend à la radio que la loi 2002 pour l'accès aux origines personnelles est passée. Elle se lève, prête à partir en chasse contre sa mère l'ogresse, car qui d'autre qu'une ogresse aurait pu la vomir ainsi.
Étape 1.
Écrire à l'ASE.
Aide sociale à l'enfance.
Étape 2.
Attendre.
Étape 3.
Recevoir la réponse.
Étape 4.
Attendre.
Étape 5.
Recevoir le rendez-vous pour l'ouverture de ton dossier.
Étape 6.
Attendre.
Étape 7.
Rencontrer la psychologue de l'ASE.
Étape 8.
Écrire au CNAOP.
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
Étape 9.
Attendre que le CNAOP retrouve ou pas ta mère.
Étape 10.
S'il la trouve, attendre de savoir si elle veut bien te rencontrer.
Étape 11.
Si elle veut bien, attendre de savoir si elle veut faire ça seule ou avec le médiateur du CNAOP. Après 15 530 jours d'existence, Orca écrit une lettre à sa mère.
Il Il était une fois une femme partie sur les traces de sa mère biologique. Sans qu'on ne lui ait jamais rien dit, elle sait depuis toujours qu'elle a été abandonnée et elle cherche. Une longue quête traversée par des figures de mères fantasmées, rêvées, redoutées. C'est pas pour dire.
Une metteur en scène pour du récit, pour du conte, c'est quoi? J'imagine qu'on n'est pas vraiment dans la scéno, dans la gestion des déplacements. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? C'était quoi votre commande?
Ça pourrait paraître contradictoire, mise en scène et conte, ou spectacle de conte. En vérité, ce qu'on lui a demandé, c'était... presque de nous organiser sur le plateau. C'était aussi, au départ, on s'est dit, il nous faut une tierce personne aussi.
C'est ça, quelqu'un qui soit extérieur.
Voilà, quelqu'un qui soit déjà un regard extérieur. Donc, déjà, c'était sa première fonction, hein, quand même. Et après, c'était parce qu'on ne se rend pas forcément compte, parce pour X raison, on est collé au truc, ou plus ou moins collé, quoi, mais quand même. Et du coup, on a quelqu'un qui a l'habitude de travailler là-dessus et qui peut nous dire, mais ça, en fait, il faudrait quand même le transformer de telle manière que ce que les gens aient quelque chose de fluide et de... C'est surtout ça qu'on lui a demandé.
Oui, c'était quand même l'équilibre de nous trois dans l'espace.
Oui.
C'était de voir, à un moment donné, on s'est dit, c'est Mathieu, il est musicien, mais il est aussi clown. Et donc, on a cherché, on a essayé avec elle des choses. Et puis, il y avait aussi des moments du spectacle que Nat ne voulait absolument pas jouer, ni raconter. Il y a quand même des temps, par exemple, d'incarnation de cette mère biologique. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse travailler ce rôle, même si j'avais les mots, etc. Voilà, donc en fait, on va dire qu'il y a des moments où, oui, on est dans quelque chose d'un peu plus théâtralisé, mais tu vois, plus dans les temps d'incarnation des personnages. Sinon, c'est vraiment du récit.
Oui, voilà. Il y a un mélange de récit, d'incarnation, de chant.
Après, ce spectacle, il est tout ce qu'on est, en fait. Oui. Et tout ce oui, qu'on aime, ça. Et que c'est un mélange de plein de choses. Parce que Nat, elle chante en italien depuis des années aussi.
Oui, donc il y a aussi du chant italien, logiquement.
Ah, tu chantes
Ouais, moi je suis dans une compagnie qui fait du collectage de récits de vie des immigrés italiens en France. Et forcément, étant donné cette histoire, je me suis tout de suite dit, faut quand même qu'il y ait du chant, c'est la moindre des choses. Et de toute façon, Clara, elle aime beaucoup aussi les moments où il y a du chant et de la musique, donc c'était hyper logique.
Madame, souvent, je vous ai parlé, comme on parle à une absente, plus qu'à une inconnue. Vous étiez un fantôme plus intime que quiconque. Alors des vies, des visages, je vous en ai inventé. Des milliers, chaque jour. Adulte, j'ai fini par comprendre que vous ne viendriez pas au-devant de moi.
Après 15 542 jours de quête et d'enquête, Orca est à Toulon.
J'ai une grande.
C'est là que vit sa mère biologique. L'ogresse vit dans une cabane en béton perchée en haut d'une tour de la cité bancaire à Toulon, au 9e étage.
Orca prend l'ascenseur. Elle monte. Elle a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter, qu'il va toucher le ciel. Et en même temps, elle se sent aspirée par le bas, là où il n'y a plus rien, que le noir. Les monstres et toutes les ogresses du monde.
Marie Costanza est une ogresse minuscule d'1,60 m, tassée, sans presque plus de dents.
J'ai fait des petits chocs cardiaques.
Elle ne parle que des morts, les mélange avec les vivants. Elle se nourrit de yaourt au lait caillé et de brioche.
Elle raconte son histoire, ou plutôt l'histoire de la famille Costanza, l'arrière-grand-mère. La grand-mère et la mère d'Orca qui disaient toujours « Nous, avec les sorts, on a la mort !»
La bisnonna Maria abitava a Sousse et raccoglieva bambini.
L'arrière-grand-mère, elle vivait à Sousse. Elle récupérait des enfants siciliens, très pauvres, et elle les plaçait. Les filles, elles étaient envoyées dans des hôtels à 15 ans pour être femmes de ménage. Là, elles étaient violées, elles revenaient enceintes et Maria s'occupait d'elles. Enfin, s'occupava. Non, veramente non.
Un secret tue, tu le dis. Un secret dit, tu le tues. Est-ce que tous les secrets doivent être dits, levés? Pourquoi le silence serait-il d'or et la parole d'argent? Le silence a-t-il plus de valeur, plus de sens dans certaines situations? Orca interroge aussi pour nous la question des origines, de notre besoin humain de vouloir savoir d'où nous venons, comme si la connaissance de nos origines était non seulement un droit fondamental, mais aussi un devoir familial de transmission. C'est pas pour dire au Festival de Contes de Vassivière.
Il y a une chose commune, j'ai l'impression, entre l'univers du conte et l'univers du chant traditionnel. Enfin, en tout cas, les collecteurs ont en général collecté et des musiques, et des chants, et des histoires. Toi, tu n'as pas collecté d'histoires ?
Je ne collecte pas pour les Italiens, mais on a un projet qui existe depuis un an maintenant, qui s'appelle « Raconte-moi mille et une villes ». Parce que moi, je viens aussi du milieu de l'habitat et tout ça. Et donc, il y a un an, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de collecter beaucoup plus que ça. Presque, j'adore ça, en fait. Et donc, j'ai monté un projet. On est 10 dessus maintenant, qui est un projet de collectage d'habitants, de récits de vie d'habitants, qui habitent pour l'instant plutôt dans des quartiers qui vont être transformés, voire démolis, reconstruits, enfin voilà. Mmh. Avec dans
sur
les.
Sur ce thème-là de l'habitat ou plus généralement?
Bah, en fait, en vérité, au départ, tu as vaguement un thème. Il y a une ville qui t'appelle et qui dit bon, on va démolir telle tour, tiens. Et toi, tu es censé demander aux habitants quelle est leur mémoire de ça et qu'est-ce que ça leur fait. Mais après, évidemment, ça déborde de partout. Et voilà. Et donc là, on a commencé, on est 10, bah, y a Clara dans ce projet, y a d'autres conteurs aussi, y a Pépito aussi, il y a Marie, Najoie. Il y a un musicien, des sociologues, il y a quelqu'un qui dessine, y a moi aussi, et il y a quelqu'un qui est un peu spécialisé dans les podcasts, etc. Et donc avec ça, on fait, à partir des récits, on crée un spectacle vivant. De penser que le récit de vie, collecté puis réécrit d'une certaine manière, même si c'est qu'une écriture orale, avec cette transformation-là, permet de toucher les gens et potentiellement, je dirais même, de les transformer eux. Enfin, je pourrais dire ça, moi.
En quoi ça change? Qu'est-ce que ça change? Le fait que ce soit des artistes qui fassent ça?
Je pense qu'une de nos compétences, c'est d'être capable de décaler la parole de l'autre. C'est-à-dire de la décaler, de la sublimer. Et ça, c'est notre compétence, pour moi.
Tu rends pour eux plus beau.
Exactement.
Le récit, qui, d'ailleurs, il y en a plein. Tu viens les collecter, mais moi, j'ai rien à dire. J'ai vraiment mais aucune histoire intéressante. Et après, à la fin, leur histoire est dans un spectacle. Ça veut dire qu'eux sont intéressants. Ça veut dire qu'eux, ils sont beaux.
Pendant plus de 20 ans, j'ai rencontré des gens à reloger, des milliers de gens, des gens qui me racontaient leurs histoires bien au-delà de ce qui était utile pour leur relogement. De toutes ces histoires, je ne faisais rien, et j'en suis restée en quelque sorte dépositaire. Des pans entiers de vie ne rentraient pas dans les cases d'un bilan ou d'un rapport. Les gens me disaient qu'ils étaient heureux qu'on les écoute, qu'ils seraient heureux que leur histoire soit connue. C'est de tous ces fragments de vécu, ces récits oubliés, qu'est né « Raconte-moi mille et une villes ».
a toujours été une ville animée. Même le dimanche, il n'y a rien qui était fermé. Je vous parle des années 50-60.
Hein. Oui, oui.
Oui. Je me souviens d'une ambiance gaie et joyeuse. Et surtout, le stand de sardines grillées. On installait des tables et des chaises. On buvait un petit verre de vin blanc. Et on profitait du soleil quand il y en avait. On n'a pas compris quand ils ont fermé le marché. C'était quand même un beau noyau.
Tiré du reportage « Raconte-moi, mille et une villes », un projet imaginé et porté par Nathalie Merzec, à la rencontre des habitants d'une ville, d'un quartier, d'une cité ou même d'un immeuble, des conteurs partent collecter des récits de vie dans la rue, en atelier, dans les maisons. L'objectif, créer du lien, sauvegarder un patrimoine immatériel, garder mémoire d'un territoire en mutation, parfois même en démolition, et redonner une image digne à un groupe, à un quartier, à une communauté. C'est pas pour dire, l'interview continue.
Justement, la seule question qui est la même que je pose à tout le monde, on est au 21e siècle, il y a plein de manières de raconter des histoires, super technique, on a même des réalités virtuelles et tout ça. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'il y a encore des gens qui se déplacent pour écouter des histoires, des gens qui racontent des histoires avec juste une voix, un cœur, un corps, une âme? À quoi ça tient, ça?
Tu sais, l'autre fois, j'étais assise sur un canapé et j'écoutais des gens qui parlaient, des gens qui étaient proches de moi, et j'ai failli m'endormir et je me suis dit, mais il y a leur voix déjà, il y a la vibration de leur corde vocale, il y a une certaine tessiture qui fait qu'en fait, ils pourraient bien me raconter n'importe quelle histoire, moi ça me ferait quelque chose de terriblement émouvant. Alors je pense que déjà il y a la voix, la chair de la voix quoi.
Oui, c'est plus que la voix, parce que c'est la voix en présence.
C'est ça, la voix physique, quoi. Là.
Moi, je me rappelle que pendant le confinement, en fait, ça a été pour moi hyper dur d'être obligée d'être beaucoup moins en lien avec les gens, même si j'ai résisté d'une certaine manière, mais quand même. Et en fait, j'arrivais plus du tout à aller travailler seule dans mon atelier, je pouvais pas du tout lire, je pouvais rien faire. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai écouté des conteurs raconter à la radio les émissions, tout ça. Et de réentendre des voix de gens qui me racontent des histoires, je me suis dit, ok, ça me redonne un peu de force, quoi. Ça, oui. Et après, je me dis, je sais pas, c'est comme si c'était le terreau, en fait. Il y a un truc de là-bas, de pas de primitif, mais... Je ne sais pas si ça ne va pas chercher aussi un truc de l'enfance qu'on a eu, qu'on n'a jamais eu. Quelque chose de raconter une histoire. C'est comme si c'était une chose où on a l'impression qu'en fait, ça a traversé les siècles et que ça ne s'arrêtera jamais. Que jamais des gens ne raconteront plus d'histoire. Et que c'est un fil comme ça peut-être immuable. Et...
Moi qui étais presque l'ennemi des histoires, je dis aujourd'hui que c'est comme si on était un grand puzzle et qu'à chaque fois qu'on entend une histoire, on a un petit bout de puzzle peut-être qui se met en place quelque part pour nous reconstituer, pour nous constituer, pour nous faire entier, pour nous faire complet.
Souvent, dans les publics de conteurs, soit on a des enfants, mais parce qu'ils sont captifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être là, ils viennent avec l'école, ou ils viennent avec le collège, ou quoi. Bon, voilà. Et puis après, on a des gens plus vieux. Et puis, il y a toute une période qui est une période de vie active, entre, allez, mettons, 17 et 40 ans. Et alors, comment ça se fait que c'est si peu... connu.
Moi, j'ai l'impression que c'est toujours le problème de la mauvaise représentation. C'est-à-dire, moi, je pense qu'à partir du moment où on emmène des gens écouter des histoires, la première fois que tu emmènes des gens écouter des conteurs pour adultes, en tout cas, les gens, ils sont toujours éblouis, en fait. Ils se disent « Ah ouais !» Donc, c'est juste que toute la représentation en France, c'est associé aux enfants, ou aux personnes âgées bénévoles qui vont le faire pour...
aux enfants, aux grands-parents, ceux qui ont l'âge
des... Et que souvent, c'est ouais. Et que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup parce qu'il y a cette mauvaise représentation. Et qu'en fait, les gens n'attendent que ça. Moi, c'est ça que je trouve magnifique, c'est ça qui me fait garder énormément d'espoir. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu donnes la parole à des gens qui ne l'ont pas, à chaque fois que tu fais écouter des histoires à des gens qui n'ont pas l'habitude, tu sens qu'ils n'attendent que ça. Et donc, c'est de notre responsabilité pour moi de le faire. C'est vachement beau, en fait, d'avoir un temps d'échange comme ça. Je trouve que c'est vrai que c'est hyper rare. Et en fait, c'est incroyable comment le fait de répondre à ces questions, mais c'est vrai que c'est un échange, mais en fait, ça permet de se rééclaircir soi-même sur des choses, en fait.
Waouh! Ah, merci. Chita? Merci. On va aller écouter des contes. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
C'est pas pour dire, mais c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à l'hospitalité et la très belle énergie de Clara Guénoun et de Nathalie Merzec qui mêlent la parole et la vie, l'imaginaire et le quotidien. Je vous invite à découvrir les spectacles de la compagnie Des gens qui comptent et le spectacle Orca, une création forte, sensible et profondément ancrée dans le vivant. Si cette émission vous a plu, partagez-la autour de vous. Retrouvez toutes les autres sur le site internet. Elles sont plus de 150 à vous attendre. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est pas pour dire. Dites-nous vos idées, vos envies, vos petits mots d'encouragement qui nous font du bien. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. A dream.